un gamin qui me dit « nique ta mère » un matin, à l'occasion d'une scène un peu, non pas de violence, mais il est un petit peu pénible, de façon matinale, voilà. Et j'ai deux options à ce moment-là, face à ce « nique ta mère », c'est soit le prendre d'une façon un peu frontale précisément et le menacer d'écrire une note d'incident, d'appeler le cadre qui est astreint, bref, m'agacer, voilà, ce qui est la solution la plus simple, vers laquelle on peut tendre, ou alors le prendre au mot précisément, mais en le surprenant moi-même, et donc j'appelle ma mère ce matin-là. Et donc face à son nique ta mère, elle me dit bah viens, on l'appelle finalement ma mère pour lui demander ce qu'elle en pense, que c'est quand même elle la principale intéressée. Et il a été très très désarçonné, et ce jour-là je me suis dit mais c'est ça en fait aussi être éducateur, c'est l'art du contournement. Mais quelle est ta mission, Sophie ? Ta mission, c'est au contraire d'offrir à ces gamins un espace pour leur permettre d'intérioriser les interdits. C'est pour ça que, selon moi, le métier d'éduc est intrinsèquement aussi lié à la notion de maïeutique. Et on va permettre à
l'art de, l'art de faire accoucher ?
Exactement. Et l'autre, enfin, l'art de permettre à l'autre d'advenir à ce qu'il est au-delà de ce qu'il a envie d'agiter, de ce qu'il a envie de montrer. Donc là, derrière l'insulte, derrière la violence, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on va permettre de faire émerger, advenir ? C'est ça aussi, pour moi, l'éduque. Tant le fait d'écrire que le fait d'exercer ses métiers est intrinsèquement lié à la dignité, à ce qu'on doit à l'autre, finalement. Et ce qu'on doit à ces gamins, c'est vous êtes suffisamment digne d'apprendre, d'étoffer votre langage, de nommer le réel. Et donc c'est un exercice d'équilibriste, donc j'en reviens encore à ce fil du rasoir. Nommer, oui, leur apprendre des choses et en même temps se méfier du langage parfois, parce qu'il peut être, sans qu'on le veuille, un outil de domination, parfois aussi intellectuel. Parfois les mots sont de trop, si j'ose dire. J'ai aussi cité un exemple dans le premier livre qui était très éloquent. Oui. On avait fait une sortie au musée des enfants de justice qui se situe à Savigny, donc dans l'Essonne, et on était dans la voiture avec des gamins, et c'est une zone qui est pavillonnaire. Et il y a un gamin qui regarde à travers l'habitacle du véhicule et me dit « Bah tu vois Sophie, moi si j'avais grandi dans une maison avec des fleurs, eh ben j'en serais pas là dans ma vie. » Et à ce moment-là, j'ai été tellement sciée par la beauté, la brutalité, la poésie de cette remarque, qui était vraiment un peu renversante, que je me suis dit que si je tentais de la commenter, ça verserait dans une forme d'indécence un peu obscène et qu'il valait mieux se taire.
Bonjour, je suis Roland Schwetzhoff. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Paroles de penseurs. Dans les épisodes précédents, j'ai donné la parole à des médecins et des philosophes. Je souhaitais aujourd'hui entendre la voix du travail social et plus particulièrement des travailleurs sociaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ceux dont l'outil de travail est la relation d'aide, mais aussi, à mon sens, la relation de soins. Le prendre soin d'enfants vulnérabilisés par un environnement familial et social insuffisamment contenant, sécurisant, voire malheureusement parfois absent. En tombant par hasard sur l'introduction d'un livre intitulé « Éduque, un métier sur le fil du rasoir » paru en 2022 aux éditions RS, j'ai eu envie, avant même de lire le livre dans sa totalité, de donner la parole à son auteur, Sophie Moreau, pour nous parler de son métier éducateur spécialisé à la PJJ. J'ai donc contacté Sophie, qui a eu la gentillesse d'accepter cette invitation et de venir un samedi depuis Roubaix, c'est ça Sophie ?
Tout à fait.
Oui. Depuis Roubaix sur Lyon pour nous parler de son métier. Alors bonjour Sophie.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Je suis très heureux de réaliser avec toi ce 11e épisode de la série de podcast Paroles de penseurs. Alors Sophie, tu as tout d'abord un parcours universitaire de droit et de philosophie du droit à la Sorbonne et à l'université Assas à Paris. Puis tu as décidé d'être éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Tu travaillais depuis 2018, je ne m'abuse, au sein d'une unité éducative d'hébergement collectif où sont accueillis en urgence des mineurs sous mandat judiciaire. Et tu es maintenant formatrice à l'École nationale de la PJJ à Roubaix. Et tu es enfin l'autrice de deux ouvrages parus aux éditions RS. Le premier qui est « Œil pour œil, clan pour clan », paru en 2020. Et le deuxième qui est « Éduque », celui dont j'ai parlé à l'instant, « Éduque, un métier sur le fil du rasoir », paru en 2022, donc récemment. Ces deux ouvrages signent pour moi, au-delà peut-être de vouloir rendre justice à ces enfants sous main de justice, une véritable éthique clinique du travailleur social, consistant à prendre conscience de ce que sent et ressent l'éducateur dans son lien avec les enfants qui l'accompagnent, mais aussi peut-être avec l'enfant qu'il a été. On y reviendra peut-être. Ta réflexion convoque également, en filigrane de tes deux ouvrages, des penseurs d'une éthique de la liberté, comme Hannah Arendt, comme Jankélévitch, comme Ricoeur, pour ne citer qu'eux, qui, en réintroduisant de la contingence dans le travail social, permet d'ouvrir le champ des possibles malgré des structures sociales fortes qui déterminent ces enfants. Tu es donc une penseuse avec un E, une penseuse qui met des mots MOTS sur les mots MAUX des travailleurs sociaux, tous ces travailleurs sociaux potentiellement victimes de ce que tu appelles le syndrome du professionnel secoué, en référence au syndrome du bébé secoué, dont on sait les traces neurologiques que ça peut laisser. Mais tu es également une penseuse avec un A, car tu prends soin des enfants malmenés et souvent cabossés par la vie. Alors Sophie, je t'ai présenté très rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi aujourd'hui ?
Alors sur moi, donc je suis maintenant formatrice à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, plus particulièrement ce qu'on appelle un pôle territorial de formation, Grand Nord. Alors l'École nationale de la PJJ, en fait, c'est un site central qui est à Roubaix et 9 pôles de formation un petit peu sur tout le territoire métropole et outre-mer. Et donc moi, je suis formatrice au PTF Grand Nord. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle.
Au PTF.
Au PTF, pôle territorial de formation.
De formation.
Voilà. Donc je me décris comme éduque, formatrice et bébé auteur, dirons-nous. J'ai encore du mal à incarner et à assumer ce statut
bébé auteur, avec deux ouvrages à la clé quand même.
Oui, et pour autant, je sais que l'écriture est une passion depuis bien longtemps déjà, que j'ai eu la chance de remporter des prix d'écriture, d'être animée et traversée par cette passion. Mais pour autant, il y a une forme, je ne sais pas si c'est de l'illégitimité qui demeure, mais ce n'est pas si simple de s'auto-désigner auteur. Que quelqu'un d'autre le fasse, oui, mais moi-même, sur moi-même, non.
Syndrome de l'imposteur.
Peut-être. Voilà ce que je pourrais dire de moi, en tout cas sur le champ professionnel.
Enfin, un bébé 30 ans quand même.
Un bébé 30 ans, et bientôt 31 même.
Bon. Alors, on n'est pas travailleur social ou soignant par hasard. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir éducateur spécialisé, en l'occurrence, à la PJJ ?
Alors, il y a deux choses. Déjà, au niveau sémantique, alors moi, je ne suis pas éducatrice spécialisée, parce que je suis éducatrice de la PJJ. Éducateur spécialisé, c'est vraiment une formation autonome qui est dispensée en 3 ans. Donc, c'est le diplôme d'éducateur spécialisé. Et Éduque PJJ, c'est vraiment un concours du ministère de la Justice. Donc, ce sont deux choses différentes. Et moi, initialement, j'ai toujours rêvé d'être psychologue. Voilà. C'était un peu moins le rêve de mes parents, pour le coup. Et je revois mon père, à l'époque, m'imprimer un tableau Excel avec les chiffres du chômage et me montrant en 2010, « Mais tu vois, Sophie, si tu t'inscris dans ce parcours de formation en psychologie, eh bien, tu seras chômeuse ou uluberlue. » Et donc, il me parlait finalement de son époque à lui, où ceux qui se dirigeaient en psycho, c'était ceux qui avaient envie de pas faire grand-chose. Et donc, c'est là qu'on voit que d'une époque à l'autre, les choses peuvent grandement changer. Bon, déjà, je pense que mon père avait un regard biaisé sur le métier, mais que finalement, aujourd'hui, justement, on est en demande de psychologues, de personnes professionnelles de la santé mentale d'une façon générale. Et donc moi, j'ai toujours été animée par les questions autour de l'humain. Quand j'ai découvert les cours de philosophie en terminale et les cours sur l'inconscient avec Freud, avec Jung et d'autres, j'ai été complètement subjuguée. Et donc ce jour-là, je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux faire finalement, c'est essayer de comprendre la complexité de l'humain. Et bon, mes parents n'ont pas voulu, donc je ne me suis pas inscrite en psycho, je me suis inscrite en droit parce que j'avais dans ma famille de nombreux membres qui avait un parcours juridique, donc des avocats, des commissaires, ma mère était douanière, etc. Et donc j'ai suivi ce chemin, alors même que je savais au fond de moi que c'était absolument pas le chemin qui était le mien. finalement. Et pour autant, et parce qu'on ne se refait jamais, hein, même quand on essaie de nous imposer quelque chose, mais on y reviendra, hein, sur les trajectoires et comment on réussit à récupérer une partie de soi, même quand on tente de nous imposer quelque chose, les matières qui m'intéressaient le plus étaient le droit pénal, bien évidemment, hein, qui était la dimension, la matière la plus humaine, finalement, des matières juridiques, et le droit des libertés fondamentales, où j'ai découvert Ricoeur. Et je me rappelle de cette phrase qui m'avait marquée à l'époque sur la dignité. Mmh. On avait eu un cours de droit administratif sur un arrêt qui s'appelait Morsang-sur-Orge, sur le lancer de nains. Je me rappelle très bien, où il y avait les nains considéraient que l'interdiction qui leur était opposée de lancer de nains portait atteinte à leur dignité, et cette même dignité était au cœur justement du débat, parce que le maire considérait que c'était une atteinte à la dignité que de leur permettre cette activité. Donc là, on voyait bien déjà qu'une même notion peut être en otage, hein, selon le point de vue. Et Ricoeur avait cette phrase sur la dignité, ce qui est dû à l'être humain du fait qu'il y a un être humain. J'avais trouvé ça vraiment très beau. Et donc, je fais mes études de droit, je perds mon papa quand j'ai une vingtaine d'années. Et finalement, et ça, on en reparlera aussi, ma vision de la vie, c'est que même dans le plus grand des malheurs, il faut réussir à ce qu'on... construire une forme d'opportunité et se saisir et transformer finalement vers autre chose, vers un autre chemin. Et donc je fais un master 2 de philosophie du droit, je renoue aussi avec cette dimension. Je fais un service civique dans un lycée où je fais de la prévention, sensibilisation sur des problématiques adolescentes autour du harcèlement, des réseaux sociaux, prévention des drogues. Je découvre ce public adolescent et j'adore travailler avec les ados. Et en parallèle, je passe et les concours d'EDUXP dans les écoles des EDUXP, et le concours PJJ. J'arrive 9e au concours PJJ, et donc je me dis, bah là c'est génial, je vais pouvoir à la fois renouer avec la psycho, honorer et capitaliser sur mes études de droit pénal que j'ai faites, et en avant Guingamp, hein, si j'ose dire. Et j'ai fini à Roubaix, voilà, donc de Guingamp à Roubaix, pour le coup. Et donc j'ai intégré l'UNPJJ en 2016.
Donc ta mère était douanière, et ton père ?
Mon père était informaticien.
Informaticien, d'accord.
Voilà. D'où le tableau Excel, bien évidemment, imprimé... avec les statistiques de chômage des psychologues.
La plupart des médecins que j'ai rencontrés dans ce podcast nous parlent de leur maître en médecine. Et quels ont été à toi tes maîtres, qu'ils soient philosophes, écrivains, psychanalystes ou travailleurs sociaux, par exemple, si tant est que tu es un maître?
Alors, j'en ai un, mais qui n'est pas du côté de la littérature. Enfin, ce n'est pas en tout cas celui-là que j'ai envie de spontanément présenter. C'est Chopin. Voilà.
Tiens donc.
Moi, mon maître à moi, c'est Chopin, c'est la musique classique. Mmh. La musique classique occupe une grande place dans ma vie, la musique tout court, parce que j'aime beaucoup, beaucoup de styles différents. Mais c'est vrai qu'il y a une phrase de Nietzsche que j'aime bien qui dit « Sans musique, la vie serait une erreur ». Et bah moi, je vais pasticher ça un peu. Sans une nocturne de Chopin tous les jours, la vie est clairement une erreur pour moi, ou la journée est perdue. Voilà, donc j'adore cette période romantique et... je suis complètement sous le charme de Chopin. Et puis, je fais moi-même du piano. Et forcément, j'ai eu la chance de débuter le piano à 6 ans, d'en faire jusqu'à mes 16 ans, moment où après j'en ai eu un peu marre, et l'esprit rebelle de l'adolescent, un peu bébête, en a un peu marre de la discipline. Je regrette un peu. Mais voilà, je sais encore jouer quelques nocturnes, je ne sais pas comment, mais j'en écoute tous les jours. Donc ça, c'est mon maître en musique. Et en littérature, je ne sais pas si c'est vraiment un maître, mais c'est un auteur qui s'appelle Jean-Louis Fournier, et qui est un romancier qui a écrit sur son parcours personnel. Il a 2 enfants atteints de handicap. Il a écrit un livre qui s'appelle « Où on va, papa ?» Il a jamais tué personne, mon papa. Et il a un style très incisif. Et moi, j'aime les auteurs qui vont droit au but, si j'ose dire, et qui parlent aussi en jeu. Voilà, j'aime les témoignages, j'aime les récits, j'aime les autofictions. J'aime les auteurs qui nous parlent de leurs récits subjectifs pour en faire une expérience universelle. Voilà. Donc j'aime Annie Ernaux, j'aime Constance Debré, un Édouard Louis, qui sont des auteurs là qui sont assez récents, si j'ose dire. Enfin, peut-être pas dans leur lien à l'écriture, mais en tout cas, voilà.
Les histoires de vie, quoi.
Les histoires de vie, les trajectoires, les témoignages, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il faut du courage, en plus, pour parler de soi. Voilà.
C'est quoi être éducateur de la PJJ ou spécialisé aujourd'hui ? Alors, je te préviens, t'as pas 4 heures.
Être éducateur, pour moi, c'est un support d'expression pour un sujet qui, au contact d'un autre, va interroger son propre rapport au monde et à la liberté. Et donc là,
maintenant... Alors attends, tu peux me la refaire ?
Oui.
C'est un support d'expression.
Donc c'est un support d'expression, ouais, pour un sujet,
ouais,
qui, au contact d'un autre, va interroger son propre rapport au monde et à la liberté.
D'accord.
Et pour moi, ce qui caractérise l'éducateur, parce que là, on a fait une distinction entre l'éducateur spécialisé et l'éduc-PJJ, en tout cas dans le parcours de formation, mais pas que, puisque finalement, ce que j'oubliais aussi de dire tout à l'heure, c'est que l'éducateur PJJ est plus spécialisé qu'un éducateur spécialisé, au final, puisque nous n'avons qu'un public, si j'ose dire, bon, alors qui est concerné et traversé par de nombreuses problématiques, alors que l'éducateur spécialisé peut intervenir auprès de plusieurs publics différents. Parenthèse fermée. Mais ce qui caractérise l'éducateur au sens large, selon moi, c'est l'art du détour, l'art du contournement. C'est-à-dire que plus on essaie d'être frontal et d'aborder les choses de façon trop directe, et plus on a de chances de se casser la gueule, pour le dire un peu trivialement. Donc pour moi, l'éduc est celui qui a toujours des stratégies éducatives. Il y a un livre que je conseille à ceux qui nous écoutent qui s'appelle « Le tarot de l'éducateur ».
Ah.
Il me semble que c'est François Hébert. J'aime bien cette idée de tenter finalement des choses et de se demander comment est-ce qu'on va faire pour, même si on allonge le chemin, essayer d'approcher à l'objectif qu'on n'aurait jamais atteint de façon plus directe. Et donc je donne un exemple dans le livre, bon, je vais trahir le premier livre du livre, tant pis, le premier chapitre du livre c'est pas grave, qui est donc un chapitre qui s'appelle Chiche, où il y a un gamin qui me dit « nique ta mère » un matin, à l'occasion d'une scène un peu, non pas de violence, mais il est un petit peu pénible, de façon matinale, voilà. Et j'ai deux options à ce moment-là, face à ce « nique ta mère », c'est soit le prendre d'une façon un peu frontale précisément, et le menacer d'écrire une note d'incident, d'appeler le cadre qui est astreinte, bref, m'agacer, voilà, ce qui est la solution la plus simple, vers laquelle on peut tendre, ou alors le prendre au mot précisément, mais en le surprenant moi-même, et donc j'appelle ma mère. Ce matin-là. Et donc, face à son nique ta mère, elle me dit, viens, on l'appelle, finalement, ma mère, pour lui demander ce qu'elle en pense, que c'est quand même elle la principale intéressée. Et il a été très, très désarçonné. Et ce jour-là, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, aussi, être éducateur. C'est l'art du contournement. C'est la pédagogie du détour.
La stratégie. Donc, plutôt Ulysse qu'Antigone.
Exactement.
Bon.
Exactement. Et même si ça prend plus de temps, c'est pas grave.
Donc, Ulysse et sa métisse, sa ruse aux mille tours.
Oui.
Ah, d'accord. Oui. Ça va, c'était moins de 4 heures, parfait. Freud disait qu'il y a 3 métiers impossibles. Le premier, c'est gouverner, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Le deuxième, c'est éduquer, parce qu'on n'aura jamais l'enfant qu'on a fantasmé par rapport à l'enfant réel qu'on a vraiment. Et le troisième, c'est soigner, enfin, il disait plutôt analyser. Est-ce que tu es d'accord avec Freud sur l'impossible d'éduquer ?
C'est vrai qu'il y a 2 étymologies à éduquer. Enfin, on a le fait d'élever, d'instruire et faire sortir d'eux. Et si on le prend au sens d'émancipation, de faire sortir d'eux, je pense que l'éducateur, en tout cas pour l'éduc-PJJ, on doit se fixer, se donner une mission d'exploration du monde et de proposer suffisamment d'alternatives. Mais c'est pas parce qu'on le fait que ça va fonctionner. Et ce qui est compliqué finalement dans nos métiers et ce qui peut nous faire penser que c'est une mission du coup impossible, c'est peut-être la temporalité dans laquelle on intervient. Et dans ce deuxième livre, il y a une image que j'essaie de prendre pour illustrer une sensation que moi, je peux avoir à un moment donné dans nos quotidiens, qui est l'image d'un infirmier en soins palliatifs qui peut avoir cette tentation un peu cynique de se dire « on intervient trop tard », puisque littéralement, il est confronté à la mort biologique. Et nous, on n'est pas confronté à la mort biologique, mais à la mort sociale, en l'occurrence. Et parfois, on peut avoir la tentation de se dire « mince, face à ce gamin très abîmé, est-ce qu'il n'aurait pas fallu intervenir bien plus tôt ?» 4-5 ans plus tôt, de façon très précoce, qui est du soutien à la parentalité, etc.
Comme l'infirmière en soins palliatifs.
Exactement. Donc, c'est pas tant que ce soit impossible, c'est juste que parfois, on peut se dire, mince, qu'est-ce qu'on intervient tard, finalement. Voilà. C'est ça qui peut être dur.
Alors, ce que disent les infirmières en soins palliatifs, c'est qu'il faut être dans l'instant présent. C'est-à-dire, comment transformer la durée, puisqu'en fait, on va mourir. C'est ça le déterminisme biologique. Tout comme le déterminisme social. Comment transformer cette durée en instant, c'est-à-dire qu'on est ici et maintenant ?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui, moi, m'a un peu aidée.
Ouais.
J'allais dire à la fin, pas à la fin de ma carrière, parce que bien évidemment, je n'ai que 30 ans, là. Mais dans les derniers mois qui ont donné lieu, finalement, à l'écriture de ce livre, où je pouvais être vraiment tiraillée et être prise dans une ambivalence entre ce que j'appelle le cœur et la raison, donc l'attachement... envers ces gamins, il y a en même temps parfois une forme de désillusion, une forme d'impuissance, et je ne savais pas vraiment quoi en faire. Je me suis rendu compte que ce qui me piégeait, c'était d'être un peu trop loin et d'avoir une vision à trop long terme. Et ce qui m'a sauvée, c'est justement le Ikenunk, Donc, c'est d'être dans l'ici et maintenant. Mmh. Et de se dire, bah, finalement, moi, mon métier, c'est tous les jours, déjà, de me fixer comme objectif de créer un souvenir avec le jeune. Et donc là, l'anecdote que je viens de donner juste avant sur le nique ta mère avec ce gamin, non seulement ça avait marché dans l'instant, parce que juste après, il s'est excusé, il a ri, etc. Mais ça avait vraiment créé une empreinte dans le long terme, parce que dès qu'il me revoyait, dès que je prenais mon service, il me demandait déjà comment allait ma mère. Qui me disait, mais comment elle va ta daronne Sophie? Et on en reparlait. Donc en fait, ça avait fonctionné. Et donc je me suis rendu compte que la question de la relation éducative, c'était celle du souvenir. C'était celle de l'empreinte que je laisse en eux. Donc là, quand je dis je, c'est le travers social, hein, c'est pas moi, Sophie Moreau, hein. C'est qu'on laisse en eux et que eux laissent en nous. Parce que moi-même, maintenant, ces gamins que j'ai rencontrés il y a 3, 4, 5, 5 ans, quand j'étais même en stage, je m'en souviens encore. Et ils se rappellent encore à moi, à l'occasion d'une musique, d'une rue, d'un. Moi, j'ai été formée au PTF de Lyon. Bah, là, quand je suis là, je me rappelle encore des stages que j'ai pu faire en Savoie et en Haute-Savoie. Je me rappelle des visages. Donc oui, l'ici et maintenant, mais qui laisse une empreinte durable, par contre. Donc on voit bien qu'il y a des temporalités qui se succèdent ou qui se lient quand même.
Et qui est donc carpe diem ?
Carpe diem, ah bah oui, c'est l'un des tatouages que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Bon, alors quand on a 17 ans et qu'on fait ce tatouage, je pense que c'est surtout parfois une recherche d'identité. Hein. Et puis un jour, quand j'ai vraiment lu le texte d'Horace et que j'ai vraiment compris ce que ça signifiait, ça a pris un autre sens et je me suis dit, bon, ce qui était une bêtise d'adolescent est devenu quand même quelque chose auquel je souscris. Mais on va pas se mentir, c'est une mission quotidienne. Ce n'est pas encore quelque chose que j'incarne quotidiennement. C'est dur d'être dans l'instant présent parce que souvent, l'instant présent, c'est déjà l'instant d'après. Dans tous les cas. Donc, c'est un travail quotidien.
Bon. Dans la relation d'aide, tout comme dans la relation de soins, tu en as parlé avec l'infirmier, on parle de la juste distance. Et, ni trop près, ni trop loin. Hein. Cette juste distance d'un enfant placé en foyer n'est-elle pas, tout comme pour les assistants familiaux qui accueillent J7 H24 des enfants chez eux, une injonction paradoxale ?
Alors, paradoxal, je ne sais pas, mais il y a toujours ce débat hein, chez les travailleurs sociaux entre la bonne distance, la juste proximité. Et donc, c'est là où on voit une forme un peu parfois de performativité du langage où les mots sont là, ils peuvent nous aider, mais parfois ne veulent pas dire grand-chose. D'autant plus dans un quotidien, dans un foyer où on est 24 heures sur 24 avec les gamins, pour le coup. Donc déjà, la juste distance, juste proximité, on est avec eux quotidiennement, en fait, tout le temps. Donc, c'est compliqué pour moi de...
Mais est-ce qu'elle est métrique, cette juste distance ? Est-ce que c'est 80 cm ou 2 mètres ou 10 mètres ?
Ça, c'est une bonne question, parce que pendant le confinement, pour le coup, les travailleurs sociaux, nous, on n'a jamais cessé de travailler. Ouais. Donc, moi, pour le coup, j'ai particulièrement bien vécu le confinement. Bon, déjà, parce que je suis dans un tempérament assez solitaire et introverti, mais aussi et surtout, parce que moi, je sortais de chez moi, en fait, quotidiennement, pour aller travailler. Mais pour autant, le foyer, qui est déjà un huis clos, était un huis clos dans un huis clos national, donc une bulle dans la bulle. Et pour le coup, cette juste distance, qui là était métrique, puisqu'elle était d'un mètre réellement, faisait figure un petit peu de danger pour les gamins. Je me rappelle à l'époque, qui n'ont jamais autant voulu nous coller. Et d'ailleurs, j'avais fait un billet à l'époque sur le site d'ERES, qui s'appelait Liberté... Alors, je reprenais le triptyque et j'y ajoutais distance de sécurité, en fait. Pour montrer que cette juste distance-là pouvait représenter vraiment un danger pour les gamins qui avaient besoin, en fait, finalement, de liens, de proximité.
Oui.
Voilà. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie pour moi, cette juste distance. Alors même que je l'ai éprouvé, expérimenté, que c'était l'objet de mon premier livre, puisque le premier livre, Œil pour œil, clan pour clan, journal d'une éduque de la PJ, c'était justement la description des premières émotions, sensations qu'éprouve un travailleur social qui débute et qui fait toutes les erreurs que moi j'ai pu commettre, à savoir vraiment confondre mon foyer et le foyer où je travaillais. Donc j'ai déménagé hein, à 800 mètres de mon lieu de travail. Alors on s'invente des excuses dans un premier temps, parce qu'on a des horaires décalés. On se dit, bah, au moins, je serai plus proche. Donc, quand je finis à 23h, je vais rentrer plus vite chez moi. Quand je commence à 7h, je pourrai dormir un peu plus, etc. Mais en réalité, il y a d'autres choses qui se jouent. Et quand on habite dans la même rue que son lieu de travail, qu'on croise les gamins, qu'on confond son adresse avec celle de son lieu de travail, qu'on emporte le téléphone professionnel, le bigot de service chez soi, qu'on laisse ses affaires au foyer, etc., ça dit quand même beaucoup de choses sur le jeune professionnel qui n'arrive pas à couper Voilà. Donc la juste distance, pour moi, elle se situe là aussi. C'est au niveau psychique, pas que au niveau physique. Et encore que j'aurai un exemple d'un gamin dont je parle dans le livre, qui s'appelle Pablo, et auquel je dois vraiment montrer, vraiment en étirant mon bras, hein, qui est un petit bras en l'occurrence, parce que je suis une petite personne d'1m55, ce qu'est une bonne distance à respecter entre deux êtres humains, parce qu'il n'a pas intégré, lui, ce qu'est la bonne distance, mais pas moins en termes psychiques qu'en termes la physique, parce qu'il colle les gens. Voilà. Et c'est un gamin, pour le coup, qui est là pour des faits de nature d'agression sexuelle dans un cadre incestueux, en plus. Donc ça avait d'autant plus de sens que de là, utiliser le rapport au corps. Et ce que ça montre aussi, c'est que notre premier outil, c'est le langage, en tant qu'éducateur, bien entendu, et on y reviendra peut-être, hein, sur à quel point les mots peuvent à la fois nous aider à nommer, mais parfois, eh bien, il faut préférer le choix du silence et le fait de se taire. Mais là, ce que montre cet exemple que je viens d'employer là sur ce gamin, c'est que le corps est également à l'œuvre dans nos métiers, et que nous sommes des corps en mouvement, et que dans un foyer, pour le coup, on bouge beaucoup.
Donc si je te comprends bien, c'est pas une question de centimètres ni de mètres, c'est plutôt une question de place.
Oui, alors je peux comprendre votre question, enfin ta question de plusieurs manières, pour le coup. Alors si je l'entends comme j'ai certainement envie de l'entendre, sur c'est pas une question de centimètres, sur le professionnel. Voilà, moi je précise là que je suis une femme et que je fais 1m55. Et bien évidemment, à l'époque, on m'a dit, mais tu sais que tu vas être avec des grands gaillards, parfois qui vont faire 1m80, 1m90, qui vont avoir une corpulence, etc. Oui, et donc ? Et alors ? Qu'est-ce que ça change au final ? Une question de place, de posture, d'incarnation, de bagou aussi. On peut être quelqu'un qui fait 1m55, mais avoir une forme d'autorité naturelle, un bagou, un phrasé, un peu d'humour, que sais-je.
Alors, mais de place psychique, comme tu dis. Effectivement, c'est-à-dire... La base de l'empathie, c'est de se mettre, c'est de comprendre ce que vit l'autre, donc l'enfant que tu accompagnes. Donc s'identifier, hein, psychiquement, pour le comprendre. Mais comment justement s'identifier sans se confondre psychiquement avec cet enfant ? C'est ça ? Oui. Surtout quand il y a la pathologie psychique par derrière.
Oui, bah, là, il y a une notion de Carl Rogers qui m'a beaucoup aidé à l'époque, de congruence, qu'on emploie souvent dans le sens d'un alignement entre l'action et le mot, donc le fait d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, très important quand on est éducateur. Mais il y a une autre acception en fait de ce terme-là, qui est le fait de savoir distinguer ses émotions à soi de celles de l'autre, en réalité. Et ça, moi, je l'ai découvert après. Et je me suis rendu compte que ce qui m'aidait au foyer, c'était le rôle de l'équipe, en fait. Parce que sinon, on peut vraiment être pris dans une dyade totale.
C'est ça.
Être dans une forme d'exclusivité parfois dont on se rend pas compte. Moi, dans le premier livre, je parle de la référence éducative et je dis que parfois elle glisse et elle tend vers une préférence éducative. Donc au moins le fait qu'il y ait une équipe qui soit là pour être un peu le tiers et le garde-fou,
le tiers séparateur,
complètement, ça permet vraiment de se prémunir de ces enjeux où parfois on peut être englouti, d'autant plus quand on débute et qu'on peut être pris par des enjeux affectifs qui sont plus ou moins avouables. Ça, c'est ce que je raconte dans le chapitre le plus long du premier livre. C'est un chapitre qui s'appelle Traître, où je raconte que je dois rédiger ma première note d'incident envers un gamin et qu'en fait, je viens d'arriver au foyer et que j'ai envie que ce gamin m'aime bien, en fait. Et que là, je me dis, mais mince, ce gamin a eu un geste sur moi qui n'est pas terrible et dont je dois rendre compte au magistrat, puisque c'est notre mission, hein, de rendre compte. Et en même temps, si je le fais, mince, qu'est-ce qu'il va penser ? Peut-être qu'il va moins bien m'aimer, ce jeune. Et en fait, j'ai vraiment été traversée par ces enjeux qui sont presque des conflits de loyauté dans un premier temps. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais quelle est ta mission, Sophie ? Ta mission, c'est au contraire d'offrir à ces gamins un espace pour leur permettre d'intérioriser les interdits. Donc la relation éducative, elle est au service de ça. Donc en fait, tant mieux, bien sûr que tu vas la faire, la note d'incident. Mais je raconte ça pour montrer les enjeux affectifs, plus ou moins avouables, hein, là, je le reconnais, qui nous traversent quand on débute. Voilà. Donc on peut faire plein d'erreurs, si j'ose dire.
Quand on débute, mais jusqu'à la fin de notre carrière.
Certainement.
Évidemment. Certainement. Évidemment, si on n'y est pas attentif.
Tout à fait.
Ouais.
Et parfois, être attentif soit sur soi, ça peut être un peu compliqué. C'est dur de faire de la méta-observation de soi. Alors, l'écriture permet ça, parfois. Mais c'est bien aussi qu'un collègue nous dise « Sophie, t'es pas en train un peu là d'abuser ?» Je me rappelle d'un collègue, et je le raconte dans le deuxième livre, qui m'avait dit « Attention Sophie, là, tu n'individualises plus avec cette famille, tu personnalises. » Et au début, je m'étais dit « Oh, qu'est-ce que c'est que cette distinction qui relève de la sémantique ?» Mais en fait, ça allait bien plus loin. Et j'ai compris qu'après coup, plusieurs mois après, ce qu'il avait voulu me dire.
Finalement. Donc, comment garder chacun sa place ?
Complètement.
C'est-à-dire garder cette triangulation ?
Oui. Hein ?
c'est-à-dire l'enfant, le travailleur social, et puis le tiers séparateur qui peut être l'équipe,
oui,
qui peut être le juge,
la loi,
qui peut être qui est la loi au final,
oui, complètement,
qui est la loi au final, celle qui sépare avec son glaive,
oui, c'est ça.
Et puis tu parles d'amour de l'enfant puisque tu voulais qu'il t'aime. Comment aussi arriver à garder ce qui n'est pas le contraire de l'amour, mais ce qui est le revers de la médaille de l'amour, qui est la haine, finalement, une haine qui ne soit pas destructrice, mais comme dirait Winnicott, une haine qui est structurante pour pouvoir s'en séparer, justement.
Oui.
Et la haine, ce n'est pas le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est plutôt l'indifférence.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais.
Mais là, finalement, ce dont je me suis vite rendu compte aussi, c'est que la particularité de l'éduc PJ, c'est de devoir résister à la destructivité du gamin, et en lui offrant finalement d'autres espaces d'expression, ouais, et pour, ouais, lui permettre de transformer. Donc c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure à la question qu'est-ce qui caractérise un éduc et l'art du contournement. Eh bien, c'est la sublimation et c'est le fait de déjouer. Et donc là, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller lire un texte de Yves Jeanne, qui est un docteur en sciences de l'éducation et qui a écrit un texte sur la typologie des différents types d'éducateurs face à la violence et qui montre bien qu'il y a l'éducateur régulateur, très attaché à la règle, au rappel du cadre, l'éducateur maïoticien qui va permettre au gamin de s'introspecter pour adopter une autre réaction, et l'éducateur virtuose qui va transformer finalement un moment de tension en opportunité. Et là, je pense que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du Nique ta mère s'inscrivait un peu là-dedans, et c'est ce que j'écris dans ce livre-là, donne-moi une insulte, je t'en ferai un sketch, finalement. Donc c'est ça, pour moi, la meilleure des réponses face à l'agressivité, c'est justement de déplacer, de sublimer, de transcender. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que là, moi, ce que je raconte à un moment donné aussi, c'est qu'il y a des gamins qui, voilà, on va pas se mentir, je suis une femme, je suis jeune, on peut parfois incarner des choses malgré soi. Et il y a un gamin un jour qui me dit « Sophie, t'es bonne » devant le reste des jeunes. Et donc là, moi, je me dis « Bon, eh ben, je vais aller prendre le dictionnaire et je vais aller lire ce que ça signifie « t'es bonne ». Donc je lis et je lui dis « Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots qu'on pourrait utiliser pour décrire le physique d'une femme, quand bien même ce serait pas plus glorieux, mais au moins un mot qui existe dans le dictionnaire, parce que t'es bonne pour décrire une femme ?» Non, une tarte est bonne, mais pas une femme. Donc là, j'ai de l'énergie d'avoir une forme de réaction, création, comme je le dis. Mais il y a d'autres moments où j'ai pas l'énergie et j'ai pas envie ni d'être dans la blague, ni d'être dans le déplacement, ni d'être dans la transcendance. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'ai appelé le livre « Sur un fil du rasoir », parce que parfois on oscille dans les réactions qu'on adopte. Parfois on a une grande énergie, on a énormément l'enthousiasme et la forme de foi interne, hein, d'adopter certaines réactions. Et parfois on n'a pas envie. Et donc là, heureusement qu'il y a l'équipe aussi pour observer et venir un peu à notre rescousse et prendre le relais. Puis finalement.
Le fil du rasoir, c'est celui qui coupe, qui sépare.
Oui. Oui, complètement. Mmh. Alors, rasoir, c'était, il y avait trois raisons, en fait. Rasoir, c'était le fait de ne jamais être soi rasoir dans le quotidien, pour ne pas être barbant et proposer un peu des réponses éducatives qui vont être surprenantes pour le gamin. Il y avait ça, il y avait également cette oscillation, donc le fil du rasoir entre le cœur, la raison, l'espoir, parfois la désillusion. Et c'était aussi une référence à un concept qui m'avait beaucoup marqué à l'époque pendant mes études de philo, le rasoir d'Occam, qui consiste à dire que le raisonnement le plus simple est souvent le meilleur. La solution la plus simple est souvent la meilleure. Et je remarque parfois une tendance des éducateurs, on a tendance à tout intellectualiser. Et donc parfois on veut essayer de tout comprendre, donc on élabore des hypothèses, on esquisse des...
Mécanismes de défense.
Complètement, et parfois ça nous conduit à ne pas voir en face les choses. Je vais prendre un exemple très précis d'une scène de violence. Très souvent, plutôt que de s'arrêter sur la dite violence, on va tout de suite essayer de la contextualiser, de lui trouver des explications. Alors, jamais des excuses, parce que c'est jamais une culture de l'excuse. On essaie toujours de comprendre, bien évidemment. Mais parfois, je me dis, venez, on s'arrête sur cet épisode de violence sans systématiquement chercher à absolument lui trouver une causalité, une corrélation, parce que sinon, on ne voit pas les choses comme elles sont, finalement.
C'est un événement.
C'est, oui.
Et il faut le prendre en tant qu'événement.
Exactement.
C'est-à-dire imprédictible, imprévisible.
Oui, et puis la question de la temporalité. Voilà,
et qui dit quelque chose.
Oui, et puis face à un collègue, par exemple, qui vit une scène de violence, plutôt que immédiatement se demander pourquoi le jeune est violent, peut-être demander au collègue comment tu vas ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment là on peut justement faire collectif et se soutenir ? Voilà, quitte à se remplacer pour certains services, que ce collègue ne travaille plus dans un premier temps de nuit, de bref. Et ensuite, dans un deuxième temps, peut-être, et évidemment, se demander qu'est-ce qui s'est passé pour ce gamin. Donc, en fait, c'est une question de temporalité, finalement, pour moi.
Donc, finalement, face à la violence, L'idée, si je t'entends bien, et tu es très winnicottienne finalement, c'est de se dire comment je vais survivre à ça. C'est-à-dire cette capacité de survivance dont parle Winnicott, c'est-à-dire ne pas être l'objet de destructivité de l'enfant, qui fait que en fait tout est obligé à détruire, puisque lui-même a été objet toute sa vie, il a été trimballé à droite et à gauche, hein, d'une famille à l'autre, souvent. Et en montrant ce qui survit à l'agression, à la destructivité, c'est lui remontrer du sujet. C'est remettre de la subjectivité que tu vas lui renvoyer en espérant qu'il puisse intégrer cette subjectivité, introjecter, hein, comme disent les psys, pour redevenir lui-même sujet.
Oui, complètement. Et puis lui montrer que d'autres réactions sont possibles, déjà. Et puis lui montrer qu'on tient.
C'est ça, qu'on survit.
Que nous, on ne va pas céder.
Et que ce n'est pas qu'une attaque du cadre et de la pensée, c'est aussi peut-être, tu me diras si je me trompe, une manière de tester la fiabilité de l'éduc qui est en face. Est-ce qu'il est solide? Est-ce que je peux faire un bout de chemin avec lui, avec ma souffrance? Est-ce qu'il va tenir par rapport à ce que je vais lui annoncer?
Oui.
C'est ça?
Complètement. Mm-hmm. C'est pour ça que je dis qu'on doit résister à leur destructivité en y apportant d'autres réponses.
C'est ça.
Parce que sinon, on vient avaliser la logique qui est la leur depuis quelques temps déjà, qui est celle des abandons en fait successifs.
C'est ça.
Et donc finalement la première insulte, au premier geste de violence, à la première déception que sais-je, et ben voilà, on demanderait une main levée du foyer et ils iraient encore ailleurs. Non, c'est pas possible. Enfin, en fait là, on viendrait rejouer cette logique de discontinuité alors même que leurs parcours sont déjà émaillés de ruptures. Ça n'a pas de sens. Mmh. Mais par contre, c'est ça qui peut être aussi source de fatigue et d'usure pour l'éducateur, parce que ça lui demande vraiment de faire preuve de mansuétude, d'indulgence et d'une forme d'inconditionnalité. Moi, je me rappelle que dans une de mes premières évaluations professionnelles, ça m'avait marqué à l'époque, donc je le souligne, il était mentionné l'abnégation. Donc il y avait écrit « Sophie est une professionnelle faisant preuve d'abnégation ». C'est quand même pas n'importe quel mot au final. Enfin, ça vient quand même dire des choses.
Enfin, ça vient des bonnes sœurs.
Oui,
déjà.
Alors je sais bien que mon troisième prénom c'est Marie, mais quand même, enfin moi ça m'avait interpellé.
L'héritage judéo-chrétien des travailleurs sociaux, quand même, c'est les bonnes sœurs.
Complètement, mais ça m'avait interpellé à l'époque et je m'étais dit mais il y a quand même un peu de ça dans cette dimension de vas-y, je te regarde là mettre en jeu quelque chose, mais je vais tenir. Je vais tenir. Et si je peux m'intégrer à ta scène et en faire une scène collective qu'on va transformer, un peu là comme le nique ta mère, où j'aurais pu effectivement me dire « Bon bah là, voilà, moi je suis sujet de son agressivité et c'est honteux », et ben non. Là, je m'intègre à la celle qui me propose et je me dis « On va en faire un truc ensemble, finalement. » C'est ça. C'est pour ça que je soulignais l'art du contournement. Et j'aurais plein d'exemples dans ce sens.
Et du contournement, pour le, un peu comme un paratonnerre pour aller le mettre sur le cadre, en fait. C'est à remettre du cadre. Et c'est le cadre qui va supporter l'agressivité, et plutôt que le travailleur social, ce qui va économiser le travailleur social.
Oui.
C'est ça ?
Complètement. Et c'est là qu'on voit un peu aussi la double dimension hein, de notre intervention, où on a un objectif, désolé pour la répétition, qui est donc l'intériorisation des normes, et l'objectif d'émancipation du gamin, qui là est plus subjectif au final, et qui se situe plutôt de l'ordre des valeurs. C'est pour ça que, selon moi, le métier d'éduc est intrinsèquement aussi lié à la notion de maïeutique, et on va permettre à l'autre...
L'art de faire accoucher.
Exactement. Et l'autre, enfin, l'art de permettre à l'autre d'advenir à ce qu'il est, au-delà de ce qu'il a envie d'agiter, de ce qu'il a envie de montrer. Donc là, derrière l'insulte, derrière la violence, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va permettre de faire émerger, advenir? C'est ça aussi, pour moi, l'éduc. Et encore une fois, voilà, je me resitue dans mon cadre d'intervention qui est le mien, à savoir la PJJ. Mais on pourrait le décliner à d'autres espaces, hein, pour les éduxp. Hein,
complètement.
Et permettre à l'autre d'advenir à ce qu'il est.
Enfance ou pas, d'ailleurs.
Oui, complètement. Hein d'advenir, de permettre à l'autre d'advenir à ce qu'il est. Voilà. Pour ça qu'il y a forcément, on en a un petit peu parlé, des notions de liberté. On ne peut pas parler d'éducateur sans parler de liberté, ce n'est pas possible.
Mais la liberté n'est pas sans contrainte.
Non, et d'ailleurs, c'est un mot qu'on là on peut utiliser à dessein, sans faire de dichotomie, hein, puisqu'il y a une dimension de contrainte judiciaire à la PJJ, qui est fondamentale, puisqu'on est quand même missionné et mandaté par un juge. Donc ça, on ne peut pas en faire fi. Voilà, donc notre cadre d'intervention est bien délimité. Donc comment esquisser et gagner et recouvrir ou recouvrer les deux sa liberté dans un cadre contraint?
C'est ça.
Et on a 4 heures, collectivement, pour réfléchir.
Fernand Deligny, ça te parle?
Oui, tout à fait.
Dans Graines de crapule, il nous dit la chose suivante, je cite. Si tu es pour si peu dégoûté du métier, ne t'embarque pas sur notre bateau car notre carburant est l'échec quotidien. Nos voiles se gonflent de ricanements et nous travaillons fort à ramener au port de tout petits harengs alors que nous partions pêcher la baleine. Alors comment garder vive la flamme de l'éducatif vivante, le feu sacré pour le dire autrement, puisqu'on parlait de bonne sœur, pour ne pas baisser les bras face au déterminisme social ferroviaire de ces enfants?
Alors je pense que j'ai donné une partie de la réponse tout à l'heure hein, sur l'instant présent et sur être dans l'ici et maintenant,
ouais.
Et essayer de ne pas voir trop loin, essayer de se rappeler aussi qu'ils ne sont que des enfants et que tous les remaniements seront alors possibles, bien sûr, espérés, souhaités, voilà, le champ des possibles finalement. Et arriver en service et au foyer en se disant ben, aujourd'hui, ouais. C'est aujourd'hui et on verra plus tard finalement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai citée dans un autre livre que j'ai écrit sur un autre sujet qui n'a rien à voir, où je dis « Aucune nuit n'est éternelle, l'aube revient toujours ». Voilà. Donc toujours se dire « captons l'instant ». Et ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles j'ai écrit, mais ça on pourrait aussi en parler, hein, de ouais. Pourquoi est-ce qu'on écrit. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais un peu frustrée de ce métier qui est par définition immatériel et dont on ne parvient pas à quantifier les effets. Il y a quelque chose d'impalpable, d'intangible dans cette intervention
quotidienne.
C'est ça
l'impossible du métier.
Complètement. Et au moins, écrire, c'était une façon pour moi de fixer sans figer et d'ancrer tous les souvenirs. Voilà. Dans mon premier livre, il y a un chapitre qui s'appelle « Turnover d'ose ». Parce qu'il y a beaucoup de turnover du côté des équipes, bien évidemment. Ce sont des métiers qui sont quand même fatigants et on peut s'épuiser. Donc voilà, les professionnels arrivent et partent. Mais il y a aussi un turnover du côté des gamins. Et au bout d'un moment, moi, j'étais fatiguée de me dire « Mais mince, là, ça fait 3 semaines que je suis en vacances, je vais rentrer. Peut-être qu'il y en a un qui est parti en centre éducatif fermé, un en détention, un qui est en fugue et auquel je n'ai pas pu dire au revoir. » Donc finalement, cette question, je voyais bien, moi, qu'elle me... C'était dur pour moi de m'attacher à ces gamins et de me dire, mais parfois, en fait, je vais partir et je vais peut-être pas pouvoir leur dire au revoir, je sais pas ce qu'ils vont devenir. Donc, je me suis dit, et on pourrait dire hein, que c'est un mécanisme de défense aussi, hein, que d'être dans l'ici et maintenant. Mais en tout cas, c'était une stratégie de survie professionnelle.
Ouais, mais ça revient à ce qu'on disait en introduction, c'est-à-dire, et que tu dis aussi à travers la notion de liberté, c'est finalement comment convoquer une éthique de la liberté qui permette justement, grâce à une dialectique entre ces structures sociales fortes, hein, c'est-à-dire d'où ils viennent. Pour le dire rapidement, hein. Et l'événement, c'est-à-dire l'imprévisible, la contingence radicale, qui peut être une insulte, hein, qui peut être un gamin qui pète les plombs, qui n'a pas été prévu, quoi, finalement. Donc, tenir cette dialectique entre les structures et l'événement pour transformer, finalement, ce destin en destinée, grâce à une prise en compte de ce qui peut survenir, en fait, qui n'a pas été prévu dans le programme, en quelque sorte, et des rencontres.
Oui.
Dont vous faites partie,
oui.
Vous les éducateurs.
Complètement, ce qui suppose une forme de foi, mais au sens d'espérance, bien sûr, une foi laïque, de se dire tout est possible et vraiment de les inviter à la sublimation. Moi, ça, c'est quelque chose que j'essayais beaucoup de faire.
C'est-à-dire à quelque chose de socialement acceptable, plutôt que de tout péter, on va faire quelque chose de socialement acceptable.
Complètement, complètement. Il y a un chapitre dans le premier livre qui s'appelle « Émersion » où je parle de plein de gamins en montrant les compétences qu'ils ont pu acquérir dans des domaines illégaux, finalement. Et je me demande quelle conversion de valeur pourrait-il opérer pour finalement utiliser ces compétences mais dans des domaines socialement porteurs. Je pense à un gamin, par exemple, qui tient parfaitement les comptes du trafic de stupes, qui en fait est très bon en maths et donc pourrait s'illustrer parfaitement comme un très bon comptable. Donc j'ai plein d'exemples finalement comme ça. Et dans le deuxième livre, je parle aussi d'un gamin qui finalement me dit que potentiellement il continuera encore en fait cette voie délinquante. Et au bout d'un moment, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est Sartre pour le coup et le concept de mauvaise foi et de liberté
du serveur
et de cette idée de la liberté, c'est quelque chose de vertigineux et à un moment donné, on a le choix. Alors là, forcément, ça vient faire du coup appel à des grandes questions hein, que sont l'opposition entre le déterminisme, entre le libre-arbitre. Il y a une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est « Nous ne sommes pas responsables de ce qu'on a fait de nous, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. » Et c'est pour ça aussi que j'aime Camus et l'art de la révolte et de « Il m'arrive ça, ok, qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive ?» Et finalement, il y a plein de réponses à ça. Pourvu qu'on en fasse quelque chose, ça peut être la découverte. Je parlais tout à l'heure de Chopin. Moi, la musique m'a toujours accompagnée. J'ai eu cette chance. Ça peut être le sport pour d'autres. Moi, je suis nulle en sport. Ça peut être la cuisine. Ça peut être un art, une rencontre, un amour, un ami, un prof, ça peut être plein de choses finalement. Ce qu'on appelle la désistance, nous, dans notre langage, donc, c'est-à-dire la sortie progressive du phénomène un peu délinquant.
La désistance.
Oui, la désistance, le phénomène de désistance. Ouais. Donc on parle de résilience et de désistance.
D'accord.
Ça peut être multifactoriel finalement. Et souvent je me disais, au bout d'un moment ils feront des choix aussi. Et puis rien n'est figé, donc peut-être qu'à 20 ans, 25 ans, ou même plus tard, ou même avant, finalement il y aura une forme de nouveau chemin qui pourra se dégager.
Donc en tant que sartrienne, l'existence précède l'essence.
Là, je...
C'est l'existentialisme de Sartre.
Oui. Oui, oui.
D'accord. Malgré tout, malgré cette foi, d'ailleurs j'ai bien aimé ton jeu de mots sur le foyer, la foi y est, comment est-ce que tu vis la récidive du jeune que tu as accompagné ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un échec ? Est-ce que c'est une déception ? Est-ce que c'est une trahison pour toi ?
Je trouve que le mot de trahison serait trop fort parce que d'une certaine manière, ce serait leur faire peser aussi des sortes d'attentes, en fait, finalement, ou de choses à honorer pour venir satisfaire aux attentes qu'on aurait envers eux. Alors, il y a forcément des attentes au niveau judiciaire. Je veux dire, parfois, quand un jeune a un contrôle judiciaire et qu'il a des obligations à respecter, là, on peut pas vraiment parler de trahison, mais en tout cas, on peut parler du fait qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire et il en assumera les conséquences potentielles, à savoir la révocation d'un CJ et la potentielle détention, incarcération. Mais par contre, et j'en reviens à ce concept-là de liberté, il n'y a pas d'histoire de trahison parce que ce serait très présomptueux et très prétentieux, je trouve, de la part du côté du professionnel, de se dire « mais quand même, il m'a trahi hein. ». Et d'ailleurs, il y a un chapitre dans le deuxième livre qui s'appelle « Que ta volonté soit faite », où je raconte un peu que les professionnels du travail social peuvent parfois dire « oh, mais quelle ingratitude !» « Oh, ce jeune, il est ingrat. Oh, ce collectif est ingrat. On avait mis plein de choses en place et vraiment, même pas un sourire, même pas un merci. Et puis finalement, là, ils ont même pas l'air contents de ce qu'on met en place. Alors, qu'est-ce qu'on en attendait au final ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce projet ? Au final, pour qui ? Et donc, ce que je me demande, c'est, ils ne sont pas toujours reconnaissants, mais dans tous les cas, nous sont-ils redevables ? Et en fait, non. Ils sont pas redevables. Ils ne sont pas redevables à nous. Non. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont presque de l'ordre de la communauté humaine, de respect, de politesse, de voilà un peu la règle d'or finalement, bien sûr. Mais par contre, ils ne nous trahissent pas nous quand ils se font du mal à eux. C'est eux-mêmes qui trahissent avant tout. C'est à eux-mêmes qu'ils font du mal. Enfin là, c'est une auto-agressivité. Donc,
à partir du moment où l'éducateur est bien structuré et qu'il a bien compris sa place.
Oui, voilà. Et ça peut prendre du temps. Ouais. Et moi, dans un premier temps, je pouvais très mal le vivre. Et puis au bout d'un moment, j'ai vraiment compris différemment ma mission. Et puis, puisqu'on parle quand même de philosophie depuis tout à l'heure, ce qui m'a aussi aidé, c'est les stoïciens. Ah. Voilà. Donc cette idée
Marc Aurèle.
Marc Aurèle, Sénèque. Mmh. Et cette idée de il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Tout simplement. Et c'est pour ça que je mettais ça en lien avec l'idée de la prétention tout à l'heure. Et se dire, dis donc, je me sens trahi parce que ce jeune est en garde à vue. Enfin, je trouve ça assez terrible. Et je trouve que ça en dirait long sur une forme de toute-puissance de l'éducateur. Non, moi, je me sens pas toute-puissante et j'ai envie de garder une forme d'humilité. Et je me dis que le gamin fait des choix à un moment donné. Donc, non, on lui présente. Donc là, il y a une obligation de moyens de notre côté à nous qui est de lui présenter suffisamment d'alternatives de vie, de possible, d'être dans une forme de valorisation, de lui dire « regarde ce que tu peux être, ce que tu sais faire, regarde ça ». Donc ça dépend de nous. Par contre, la façon dont il s'en saisit, ça ne dépend pas que de nous. Voilà. Donc ça, cette distinction pour moi, elle est essentielle.
Pour le dire avec Marc Aurèle, « Mon Dieu, donnez-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer et surtout la sagesse de savoir distinguer les deux ».
Complètement, complètement. Et ça m'a vraiment aidé. Et pas que d'un point de vue professionnel. C'est quelque chose qui m'accompagne toujours. Et je pense que les notions qui nous parlent le plus dans la vie sont des notions qu'on utilise et qu'on reprend à notre compte dans tous les domaines. Et là, on parle quand même du professionnel, mais tout est un peu lié, en fait. Et tu l'as dit tout à l'heure, ce ne sont pas des métiers qu'on choisit par hasard, mais parfois, on apprend plus tard ce qui nous a conduit dans ces métiers aussi.
Il y a un psychiatre et psychanalyste, qui fait de la systémique, qui est Robert Neuburger, qui dit... Une phrase que j'aime beaucoup et qui a beaucoup travaillé sur le burn-out des soignants et travailleurs sociaux et qui dit ce qui nous pousse dans les professions, ce qui nous amène à choisir les professions du soin ou de la relation d'aide, c'est aussi parfois ce qui nous empêche de bien les exercer. Ce qui nous pousse à choisir, je le répète, ces professions, c'est aussi parfois ce qui nous empêche de bien les exercer. Alors, lorsqu'on choisit d'être éduc à la PJJ ou éduc SP à la protection de l'enfance, si on n'y prend pas garde, est-ce que le risque n'est-il pas de venir, enfin en tout cas essayer de venir réparer quelque chose de nous-mêmes, de notre propre enfance, et finalement de mélanger nos deux histoires?
C'est possible.
Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce métier finalement?
Alors, là finalement...
À part la philosophie.
Oui, parce que là finalement il y a plusieurs niveaux de réponse. On pourrait très bien se dire, bon, elle aimait la psycho, c'est une psychologue contrariée, puisque je n'ai pas pu devenir psychologue, pas encore, peut-être un jour. J'ai adoré le droit pénal, ah bah j'ai voulu lier les deux. Voilà, ça pourrait être la raison un petit peu la plus simple. Mais moi j'ai appris, parce que là je suis en train d'écrire un troisième livre, en l'occurrence enfin, j'essaie de trouver le temps de dégager pour écrire, que mon grand-père est un enfant de la DAS.
Ah, voilà.
Donc c'est un grand-père que moi je n'ai pas connu, en l'occurrence, qui a été abandonné, donc il n'a jamais connu ses parents, et qui a été adopté par une famille d'accueil maltraitante, qui avait des problèmes d'alcool, et donc lui-même ensuite a développé des problèmes d'alcool, et a lui-même adopté des mécanismes de violence. Et je me suis toujours interrogée finalement sur des réactions, dès qu'on parlait de ce grand-père, j'essaie de comprendre, et finalement là c'est en reconstituant un peu le puzzle que je me suis rendu compte que peut-être, potentiellement, ce que je pouvais ressentir envers ces gamins, à savoir parfois une douleur de me dire ce sont des enfants sacrifiés, et c'est vraiment un mot que j'utilise souvent, ce sont des enfants abîmés car sacrifiés, ou sacrifiés car abîmés, eh bien, je pouvais le penser à l'égard de ce grand-père dont je me dis, mais quel début de vie complexe et compliqué, et comment ne pas devenir ceci quand on a commencé de cette manière l'existence. Voilà. Donc ça pourrait être une motivation. Mais je sais aussi l'être humain parfois opportuniste et on peut parfois donner du sens à des choses qui peut-être ne sont pas toujours tout à fait liées. Bon là, c'est quand même un peu gros de se dire, bon, quand même, ce qu'on appelait la DAS à l'époque, hein, être un enfant de la DAS avec cette étiquette hein, et puis toute cette histoire autour des non-dits.
Du secret de famille.
Du secret de famille, tout à fait. Et moi, j'avais fait à l'époque, avant même d'avoir cette information hein, sur mon propre parcours là, un mémoire autour de l'histoire familiale. Quand j'étais éduque PJJ, on doit faire un mémoire de fin d'année. Et c'était tu nous fais des histoires parentales à l'appropriation de sa propre histoire par le gamin ou comment l'intervention de l'éduque PJJ peut permettre de réinjecter, réintroduire de la circularité. Parce qu'en fait, quand on intervient auprès du gamin, on intervient toujours auprès des parents, et très souvent, on est dépositaire d'informations qui sont lourdes, de secrets de famille, de non-dits, dont parfois, nous, avec notre regard, on se dit, mais de façon très éloquente, il y a un lien entre le parcours du jeune et le parcours des parents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on devient trait d'union, finalement? Et c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé la référence tout à l'heure à Winnicott, parce que même le livre est pour moi toujours un peu un objet transitionnel. Et quand on fait un rapport éducatif, il y a un peu cette base qui permet de nommer, de verbaliser, d'inscrire des choses qui n'ont pas été dites. Et moi, je reconnais que je me suis rendu compte que dans ma famille, j'occupais cette place de l'enfant un petit peu pénible, qui vient remuer, qui vient questionner, qui vient dire « mais c'est qui cette personne sur la photo ? Mais pourquoi maman la lettrice quand on évoque ce sujet ?» Qui essaie de non pas embêter les adultes, mais les embête indirectement en posant des questions parce qu'elle pressent et ressent que des choses ne sont pas dites. Donc je pense que j'en ai fait moi mon cheval de bataille de nommer, alors peut-être parfois trop, parce qu'on est dans une époque où peut-être on verbalise peut-être un peu trop maintenant, mais je crois viscéralement à la force de la verbalisation. Voilà. Et donc peut-être aussi que je me situe là sur les traces de ce grand-père.
Donc il y aurait du transgénérationnel.
Ah oui, c'est sûr.
Mais donc tu parlais de répétition finalement, du risque de la répétition que tu essayes de... Mais la répétition, moi j'ai envie de dire avec Héraclite, c'est qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. C'est-à-dire que la répétition, c'est comment faire en sorte que ça se répète mais d'une autre manière. Mm-hmm. Et c'est là le métier du travailleur social.
Oui.
Parce que les structures sont fortes, elles sont là, tout comme l'ADN est une structure génétique. Mais comment faire en sorte que bien on fasse répéter les choses d'une autre manière et encore une fois transformer ce destin en destinée, c'est-à-dire laisser ouvert le champ des possibles.
Oui, c'est ça, et c'est vraiment c'est pour ça que j'ai souvent cette expression. Et j'aimerais bien un jour limite en faire un livre, pourvu qu'on en fasse quelque chose. Il y a une donnée de base. Qu'est-ce que j'en fais? finalement, comment je l'intègre à mon propre compte. Alors, je parlais tout à l'heure de tatouage, hein, que j'ai fait à 17 ans. J'ai récidivé après, donc moi aussi, je me suis... Voilà, donc ça, c'est le premier.
Le carpe diem.
Le carpe diem. Et j'en ai fait un autre deux, trois ans après. Amor Fati, donc de Nietzsche, hein, Nietzsche. Et qui fait également, bien évidemment, penser à Marc Aurèle. Donc, l'acceptation de la destinée, mais au sens de la fatalité, mais... Parce que souvent, quand on utilise le mot fatalité, les gens entendent quelque chose de négatif. Mais moi, je le prends vraiment au sens de fate, au sens de l'anglais, vraiment de la destinée et de qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Donc moi, en tout cas, c'est la façon dont j'essaie de vivre, de toujours ce grand oui à la vie, comme dit Nietzsche, l'appelle le grand oui. Voilà. Souscrire, non pas souscrire de façon complice à ce qui nous arrive, mais au contraire, prendre ce qui nous arrive, l'intégrer à son narratif, à sa narration, pour en faire un récit de vie cohérent, parfois certainement enjolivé, parce que c'est la force aussi de la narration, que parfois de réenjoliver, de reconstruire certains souvenirs, bien évidemment. Un souvenir, par définition, est toujours altéré par la force du temps, par l'expérience de la subjectivité, etc. Mais c'est ça aussi que j'essayais de transmettre aux jeunes, c'est « il t'arrive ça, qu'est-ce que t'en fais maintenant ? Qu'est-ce que t'as deux options, finalement ?» Et il y a une notion aussi de poétique qu'on retrouve chez Platon.
De créatif, de création.
Exactement.
De poésie.
De créativité, complètement. Complètement. On est au carrefour et j'ai plein d'options.
Alors, finalement, à ce propos, justement, tu parles du langage. Tu places en filigrane de ton action éducative et de tes ouvrages, tes deux ouvrages, le langage comme une sorte de bouclier de percée, hein, face aux insultes, aux attaques du lien et de la pensée, hein, face à la gorgone. Hein. C'est Percé qui a utilisé son bouclier en miroir pour vaincre, renvoyer l'image de la gorgone sur elle-même. Mais comment est-ce que tu arrives à réintroduire du langage quand justement celui-ci fait souvent défaut dans l'environnement des jeunes ?
Alors ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est à la fois notre premier outil, finalement, le langage, qui nous permet d'entrer en lien. Et à la fois, moi, j'essayais de poursuivre un peu une double mission, et c'était vraiment compliqué, hein, entre le fait de me mettre au niveau de ces jeunes qui ont leur code, leur façon d'entrer en lien, qui sont parfois des jeunes qui n'ont pas vraiment accès à une forme de verbalisation. J'avais également lu un article du Monde à l'époque qui montrait qu'il y avait des gamins qui n'avaient un vocabulaire ne contenant que 300 mots, finalement. Donc il faut à la fois se mettre à leur niveau pour essayer de les comprendre et à la fois les inviter à adopter, à apprendre d'autres mots, à étoffer leur langage parce qu'on les estime dignes d'apprendre. Donc j'en reviens encore à l'idée de dignité parce que tant le fait d'écrire que le fait d'exercer ces métiers est intrinsèquement lié à la dignité, à ce qu'on doit à l'autre, finalement. Et ce qu'on doit à ces gamins, c'est... Vous êtes suffisamment digne d'apprendre, d'étoffer votre langage, de nommer le réel. Et donc, c'est un exercice d'équilibriste. Hein, donc, j'en reviens encore à ce fil du rasoir. Hein, nommer, oui, leur apprendre des choses et en même temps se méfier du langage parfois parce qu'il peut être, sans qu'on le veuille, un outil de domination, parfois aussi intellectuel. Donc, il faut faire très attention, se prémunir de ça et toujours s'assurer que l'autre a bien compris, au final. Voilà.
Et du coup, est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui, à bas bruit, il y aurait ce que Paul Ricoeur appelle un désastre du narratif, là où justement la mise en récit viendrait rompre la circularité de la plainte et permet de se projeter en avant. Et du coup, est-ce qu'il faudrait réintroduire des Sherazades, hein, dans les institutions pour que souffle le vent du récit, pour qu'il vienne raviver ce feu sacré, hein, dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est pour les professionnels, mais aussi, comme dirait Michel Benahim, qui est une psychanalyste, qui dit qu'il y a des gamins pour lesquels la vie fait des histoires sans jamais parvenir à faire une histoire pour ses enfants. Okay. Est-ce qu'il faut remettre des Sherazades dans les foyers, la PJJ, la ZE, etc.
En fait, ce qui manque, c'est peut-être l'idée, oui, de la poésie, de la transcendance, de la sublimation, qui permet vraiment à l'autre de faire un récit de lui. Indépendamment peut-être des choses parfois trop institutionnelles, trop cadrées, trop protocolisées. C'est parfois les reproches qu'on peut faire un petit peu là au travail social. En tout cas, c'est parfois ce qu'on déplore. Mais réinjecter une forme
la symbolique.
Oui.
C'est-à-dire le symbole, c'est ce qui regroupe deux choses, comme une alliance. Hein, c'est deux alliances qui font symbole, qui permettent de s'unir. Et c'est parce qu'on partage.
Oui, c'est ça. Et puis, par exemple, je prends... là, voilà, moi, je suis maintenant formatrice auprès, du coup, de moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, EducPJJ, etc. Et souvent, j'ai eu une question, là, hier, de... Sophie, qu'est-ce que tu nous conseilles comme livre pour apprendre des notions, des concepts, etc. Et j'ai dit que d'une part, il y avait la lecture, la littérature grise, institutionnelle, etc. Mais qu'il fallait se nourrir de tout, en réalité. Et que moi, j'ai également appris mon métier en allant au théâtre, en allant au cinéma, en écoutant de la musique. Je parle énormément de Kery James, qui est un rappeur, dans mon premier livre, qui a écrit une chanson qui s'appelle « Banlieusard », que j'invite tout le monde à aller écouter, qui est une ode à l'émancipation, à la fierté. Une autre chanson qui s'appelle « L'impasse », qui parle justement du trafic de stupéfiants. Et on a cette air qui dit « C'est maintenant qu'il me faut des thunes, dis-moi ça sert à quoi de faire des études ?» etc. etc. Il faut se nourrir de tout, en fait.
Aussi bien du Chopin que du Kery James.
Complètement. Alors ça peut paraître un peu étonnant, ça fait un peu grand écart, bien sûr. Mais en tout cas, j'essaie de fonctionner comme ça. Et j'ai invité aussi les jeunes, donc ça c'est aussi une dimension, la curiosité. Et très souvent, parce qu'ils voyaient bien que moi j'étais aussi férue de rap, donc je leur donnais un peu une petite mission, un petit jeu quotidien, c'était qu'ils me fassent découvrir une chanson, mais que moi, je leur fasse aussi découvrir autre chose. Et à la condition de créer un pont, sans faire de mauvais jeu de mots avec le pont musical, mais c'est ça, en fait, finalement, être éduque aussi, c'est capitaliser sur les différences et créer un espace commun. Ce qui suppose aussi de l'ouverture et de sortir à nous de nos rigidités. Et c'est pas parce qu'on est éducateur qu'on détient la certitude, le savoir. Il faut vraiment faire preuve d'humilité et arriver et se dire, bah, moi, je vais découvrir aussi quelque chose aujourd'hui. Donc, c'est ça, pour moi, la condition aussi de faire le récit de soi. C'est permettre déjà à l'autre, finalement, d'accéder à une représentation cohérente de lui, multiple, complexe, et lui offrir des cadres suffisamment variés pour qu'il apprenne à se connaître hors de son quartier, de son environnement de base, de la classe relais, du foyer PJJ, de... Non. Donc, moi, il m'est arrivé parfois j'ai un souvenir en tête, je les ai emmenés voir un documentaire. C'était, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais vraiment, il fallait vraiment être culotté pour faire ça. Mais en même temps, pourquoi pas? Finalement, si nous-mêmes, on n'a pas ce pourquoi pas, mais qui va l'avoir, en fait? Donc, il faut que ce pourquoi pas soit contagieux et ruisselle sur eux pour qu'eux s'en saisissent et se disent, ben ouais, en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas cette activité, ce métier, ce... Bon, après, on retombe sur les déterminismes dont on a parlé tout à l'heure, les logiques structurelles, etc. Tout ça est plus complexe que là, ce que je suis en train de dire, qui est un peu naïf.
Le pourquoi pas, c'est l'événement, c'est cette dialectique, justement, entre la structure et l'événement.
C'est le possible, ouais. C'est l'étonnement, donc c'est un peu, il y a quelque chose un peu du chemin philosophique, hein, du mais bah, ouais, pourquoi pas, enfin je pense que ça c'est une mission que nous on doit se donner et de parfois lutter contre notre propre désespoir, du coup, parce que parfois on est quand même traversé aussi par une forme de désillusion, et ça il faut aussi le dire, parce que là j'ai l'impression de faire beaucoup de poésie, et je crois en ce que je suis en train de dire, hein, donc je ne triche même pas, mais parfois on est un petit peu désillusionné.
C'est pour ça que tu as quitté le champ du travail social pour aller faire de la formation? Parce que c'était plus intellectuel que ça?
Non, là c'est aussi une histoire d'opportunité finalement, puis parce que j'adore aussi cette place de formation, et puis en fait quand on intervient auprès des travailleurs sociaux en formation, on quitte jamais réellement le travail social d'ailleurs, puisque finalement on est aussi d'une certaine manière, on est toujours un peu sur le terrain mais différemment, voilà, donc je considère pas l'avoir vraiment quitté.
D'accord. Donc finalement, tu es très ricœurienne, parce que tu parles beaucoup d'identité narrative des jeunes. Comment les aider à se créer leur identité narrative, se raconter, mettre leur vie en récit?
Bah moi, je crois que c'est même d'ailleurs la condition de la sérénité de tout être humain. Finalement, d'arriver à une sorte de recomposition de soi qui est cohérente pour donner un peu une sorte de représentation globale de ce qui nous arrive dans la vie. Voilà. Moi, j'ai à peine 30 ans, si j'ose dire, mais j'ai déjà vécu pas mal de choses, d'événements, de maladies, du côté de mes parents, etc. Et ce qui m'a toujours sauvée, c'est l'écriture, mais parce que l'écriture, c'est une façon finalement de reconstituer quelque chose et de créer un objet cohérent qu'on tient, qui est palpable, etc. Mais je crois que tout être humain a intérêt à faire ça, à se demander qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé. Et là, on est en train de parler d'un livre, mais ça peut être plein d'autres choses, en fait. Ça peut être un dessin, ça peut être une peinture, ça peut être une conversion professionnelle, ça peut être un projet de parentalité, conjugalité, que sais-je. Ça, c'est à chacun. Et là, on retombe sur la créativité, la subjectivité. Mais la condition du bonheur, pour moi, c'est la cohérence. Non pas dans une idée de stabilité et de logique et de... C'est pas ça, mais c'est la logique qu'on porte ou le regard qu'on porte sur son parcours. Donc, on peut avoir fait 15 métiers différents, 15 vies et en même temps avoir une logique personnelle sur son parcours.
Mais du coup, introduire le langage dans la relation d'aide ou dans la relation de soins, est-ce que c'est pas aussi accepter qu'on n'ait pas accès à la totalité des mots, c'est-à-dire d'accepter que les mots nous manquent en quelque sorte toujours. Et être éducateur PJJ ou éducateur SP, n'est-ce pas accepter également une forme d'impuissance en son métier, c'est-à-dire qu'on est limité, hein, l'hubris des Grecs en quelque sorte, pour in fine sortir de cette toute-puissance, c'est-à-dire du syndrome du sauveur.
Si, et puis parfois les mots sont de trop, si j'ose dire. J'ai aussi un exemple dans le premier livre qui était très éloquent. Oui. On avait fait une sortie au musée des enfants de justice qui se situe à Savigny, donc dans l'Essonne, et on était dans la voiture avec des gamins, et c'est une zone qui est pavillonnaire. Et il y a un gamin qui regarde à travers l'habitacle du véhicule et me dit « Bah tu vois Sophie, moi si j'avais grandi dans une maison avec des fleurs, eh ben j'en serais pas là dans ma vie. » Et à ce moment-là, j'ai été tellement sciée par la beauté, la brutalité, la poésie de cette remarque, qui était vraiment un peu renversante, que je me suis dit que si je tentais de la commenter, ça verserait dans une forme d'indécence un peu obscène et qu'il valait mieux se taire. Voilà. Donc je n'ai rien dit du tout, je l'ai regardé, j'ai souri, et puis j'étais un peu émue parce que je me suis dit, ce gamin, vraiment, s'il arrive à esquisser ce genre de réflexion, tout n'est pas perdu. Enfin, vraiment, il y a un champ des possibles qui se présente à lui. Donc parfois, le silence, c'est la meilleure des réponses, au final. Et d'ailleurs, bon, tu dois le remarquer, je suis quelqu'un de bavard. Et il arrivait que les gamins me lancent des défis de jeu du silence, que je perdais bien souvent. Et ça vient en dire long parfois sur le propre rapport au vide hein, qu'on peut avoir. Hein, et sur ce qu'on peut parfois mettre en place aussi au sein d'un foyer. On est toujours tenté de les occuper, les gamins, de leur proposer des activités, des choses à faire. Bah non, enfin moi un jour j'ai lu un livre de Winnicott qui s'appelle La capacité d'être seul
en présence.
Bien. Oui.
En présence.
Oui, mais qui montre aussi que il faut pouvoir expérimenter l'ennui fécond, le rien qui n'est pas un rien au final. Et donc dans le silence que là j'ai proposé à ce gamin à ce moment-là, là, je me suis dit qu'il y avait un espace qui lui appartenait à lui avant tout.
Il était seul mais en présence de son éducateur.
Oui. Et puis on est revenu après sur ça, mais plus tard. Donc il faut apprendre parfois à se taire pour ne pas être tenté de commenter dans un moment où toute réflexion serait superflue et de trop.
On met 3 ans pour apprendre à parler, toute une vie pour apprendre à se taire.
Ah oui, complètement, complètement. J'ai encore du chemin à faire.
Bon, manifestement, tu y arrives bien dans les moments opportuns.
Oui.
Là, je te demande de parler, donc ça tombe bien.
Oui, mais cela dit, c'est vrai que j'étais émue à ce moment-là, donc je suis même pas sûre que j'aurais pu prononcer quoi que ce soit d'audible.
Donc, ce syndrome du sauveur, c'est ce qui menace tous les travailleurs sociaux et tous les soignants, qui plus est, encore plus les soignants peut-être.
Oui, mais en même temps, je pense que très rapidement, on fait l'épreuve, enfin, on fait l'expérience empirique du fait qu'on va pas sauver qui que ce soit.
Oui, mais à nos dépens, peut-être.
Peut-être, peut-être. Alors l'idée, c'est de pas trop se faire mal et en tout cas d'identifier assez rapidement ce sur quoi on peut progresser, on doit progresser. Là, moi, je citais tout à l'heure l'exemple, qui est un peu jusqu'au boutiste et un peu extrême du fait que j'avais déménagé à 800 mètres de mon lieu de travail. Bon, bah, au bout d'un an, quand je me suis rendu compte que c'était un peu trop, que je faisais des cauchemars, que les gamins connaissaient mon adresse, etc. Bon, bah là, il faut savoir se réajuster, se dire, bon, c'était peut-être pas une bonne idée, on va peut-être redéménager un peu plus loin quand même. Voilà, donc avoir quand même des garde-fous personnels, des garde-fous extérieurs, sa famille, ses amis, un conjoint, une partenaire, des activités, des loisirs, etc. Ce dont j'ai pas trop su me prémunir les deux premières années, parce que à la fois je découvrais le métier dans des modalités un peu envahissantes selon moi, et en même temps j'écrivais sur le métier. Donc j'ai vraiment été dans une sorte de bulle, dans la bulle moi aussi, et en même temps c'était une expérience totale là pour le coup, et qui m'a permis de créer et ensuite de mieux me dégager. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est les deux extrêmes, de s'investir à fond pour finalement ensuite pouvoir s'en reculer. Je ne m'arrête plus de la question, hein, bien évidemment.
Qu'importe. Parce que... L'essentiel, c'est qu'en fait, tu es en train de me dire que ce métier, tu l'aimais suffisamment, mais tu le haïssais suffisamment d'une haine structurante pour pouvoir t'en séparer. Et peut-être même faire autre chose, et c'est comme ça.
Oui.
Et c'est bien.
Oui, oui.
Parce que trop aimer son enfant ou son métier, c'est l'étouffer. C'est mal travailler, justement.
Oui, et puis c'est entraver la...
C'est fusionner.
C'est entraver la liberté, et je pense que là-dessus...
De l'autre.
Je disais au tout début, là, de cet échange, que, voilà, moi, mes parents avaient une trajectoire un peu pour moi de « tu feras du droit ». Voilà, nos profs nous ont dit que t'écrivais bien, hein, que voilà, tu feras du droit, et puis bon, on se rend compte, on a quand même des juristes dans la famille, il faut que t'honores toi aussi. Bah non, en fait. Donc, moi, je considère que le meilleur service qu'on puisse rendre à quelqu'un, c'est de respecter sa... liberté. Alors, il faut l'accompagner dans cette liberté, d'autant plus quand ce sont des mineurs, bien entendu. Et puis, c'est une liberté qui est sous contrainte parce qu'il y a une mesure, etc. Mais en tout cas, essayer de ne pas penser à la place de l'autre et ne pas être dans le trop. Ce qui est compliqué, hein. Et là, je dis ça avec une forme d'assurance, mais moi-même, j'ai pu parfois être dans l'excès du care, du prendre soin, de « Oh bah non, mais vous inquiétez pas, mettez pas la table, c'est moi qui vais le faire. Non, mais là, on passe devant une boulangerie, tu fais un petit pain au chocolat. » Parce qu'on est tenté de faire plaisir aussi.
Oui,
parce
et puis quand d'être, on voit... aimé, d'être aimé.
Oui, déjà, et puis parce que on a envie aussi d'apporter un peu de tendresse, de réconfort à ces gamins dont on sait qu'ils en ont structurellement beaucoup manqué aussi. Donc c'est en ça où ces métiers sont vraiment des métiers de paradoxe.
Mais est-ce qu'on peut, mais on peut le faire, mais tout en sachant à quelle place on est.
Oui,
et on peut aider un enfant à s'habiller.
Oui. Alors, pour nous, non, parce que là, ils sont quand même un peu trop grands. Donc,
bon, okay.
Non, pour le coup. Mais oui, de toute façon, c'est toujours la question de l'équilibre, finalement.
Mais je sais à quelle place je le fais. Pas celle de la mère, mais celle de l'éduc.
Oui. Oui, mais ça prend parfois du temps. Voilà, comme ce que j'expliquais au tout début, là, sur ce moment où je rédige ma première note d'incident, je me dis, oh là là, mais il va me détester, ce gamin. Oh là là, à cause de moi, il va avoir d'autres problèmes, etc. Puis un jour, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ta mission déjà? Ah oui, en fait, la relation éducative, elle est là au service de l'intériorisation des interdits. Ah mais oui, mais c'est donc ça. Et en fait, j'ai fait une sorte de switch à ce moment-là où je me suis dit, mais qui m'aime ou qui m'aime pas, enfin, c'est pas ça la question.
C'est-à-dire que t'as intériorisé en fait Toi-même la loi, c'est-à-dire d'être à ta place.
Oui.
De la loi comme tiers séparateur,
oui.
Entre lui et toi.
Oui, oui, complètement. Complètement.
Ouais. Il faut du temps pour ça.
Bah, il m'a fallu en tout cas cet épisode-là qui m'a marqué, où j'ai vu différemment, et puis j'ai bien perçu ce qui se passait en moi. Donc, je pense que j'ai été attentive assez rapidement à ce qui se jouait à mon niveau. Voilà, donc j'en reviens à cette idée de la verbalisation. C'est pas tant que pour les autres que j'y apporte du souci, c'est aussi pour moi-même. J'ai envie de pouvoir être honnête intellectuellement. Et donc je pense que j'ai beaucoup de défauts, j'en ai eu beaucoup au travail, mais je pense que cette honnêteté intellectuelle de dire « bah là franchement ça va pas ». Là, ça, je rentre chez moi et je suis triste. Où j'énumère mes faiblesses, mes manquements, les marges de progression, etc. Je suis assez honnête.
Alors justement, message pour les plus jeunes. Maintenant que tu es dans la transmission, tu es dans la formation, quelle a été ta plus belle réussite en tant qu'éducatrice ?
Ma plus belle réussite, c'était la participation à un concours avec un gamin où il fallait créer une œuvre. On avait une liberté de création sur l'écologie. Et lui, il dessinait extrêmement bien. Et donc, il a dessiné. Et moi, j'ai fait la partie de dessin. Et en fait, c'était très beau parce qu'on a passé du temps à le faire. Donc, on était contents. On était fiers de cette participation, de ces moments. Et puis, on avait vraiment créé quelque chose. Donc, j'en reviens à ça, du souvenir. On a créé un objet, en fait, ensemble. Donc, on a capitalisé sur nos compétences. Je parlais tout à l'heure de capitaliser sur les différences, mais là également sur les compétences. Et on avait créé un objet ensemble. Voilà, donc c'est ça. Là, la plus belle réussite qui me vient spontanément en tête, c'est cette création commune.
Donc cette poiésis.
Oui, voilà.
Comme l'hématopoïèse, création des globules rouges, comme la poésie. Oui. Avoir un regard finalement, est-ce que habiter poétiquement le monde, ce ne serait pas l'habiter humainement, comme dirait Christian Bobin?
Si, et j'adore pour le coup Christian Bobin.
On a les mêmes refs. Hein.
Ah, je l'adore. Franchement, j'aurais pu le citer aussi là en parlant de Jean-Louis Fournier au tout début. Il a une forme de pudeur et de poésie sur tout et sur le petit rien qui n'est jamais rien. Puisque c'est toujours une expérience sensible. Et c'est ça aussi pour moi être éducateur, c'est qu'un rien devient une expérience sensible. Tant un fou rire qu'un pleur, qu'un silence. Et si on arrive à être comme ça, enfin, pour moi, c'est gagné. Alors, c'est vrai que...
Là, donc, les émotions, pardon, je te coupe. Les émotions chez l'éducateur, il faut les garder.
Ah bah oui.
Oui.
Il faut les garder, déjà, parce qu'on n'est pas un robot et qu'on est un humain. Et que, par contre, il faut les identifier ça, et puis savoir en faire quelque chose. C'est toujours pareil. Voilà. Ce pourvu qu'on en fasse quelque chose, c'est à soi-même, déjà, qu'il faut l'appliquer et pouvoir le transcender, et pouvoir être assez alerte et honnête sur ce qui nous arrive, ce qui nous traverse, pour pas s'auto-bouffer également. Donc après, bon, ça, c'est chacun trouve ses réponses. Hein. Il y en a qui vont faire des supervisions individuelles, de la supervision d'équipe. Certains vont aller courir ensuite en sortant du foyer. Bon, bah moi, j'écrivais. Voilà. Et donc finalement, et c'est là, et c'est une objection qu'on pourrait me faire, hein, d'ailleurs, que personne ne m'a fait jusque-là, mais moi, j'adorais d'autant plus mon quotidien que, d'une certaine manière, il y avait une petite partie de moi qui disait, bah, peu importe ce que je vais vivre, peut-être que j'en ferai quelque chose. Voilà. Et peut-être que ça deviendra un chapitre, un paragraphe, une idée, ouais. une petite phrase que je noterai dans mon téléphone. Donc j'envisageais toujours le quotidien et chaque service que je prenais comme une façon de me dire, on verra bien ce qui se passe, dans tous les cas, ce sera bien.
Ouais, tu es très arendtienne, hein, finalement. Enfin, tu es un peu tout, hein, mais ça me fait penser au bouquin de Pontalis, J.B. Pontalis, qui s'appelle « L'amour des commencements ». La création. J'aime commencer les choses. Mmh. C'est ça ?
Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant parce que je disais récemment à une de mes amies, parce que bon, là, en quelques années, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé, etc. J'adore les périodes de transition aussi. J'aime beaucoup le mouvement. Voilà, le mouvement, pour moi, c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup marcher, pour le coup. Donc ça aussi, l'écriture, la musique, mais la marche, c'est essentiel dans mon quotidien.
C'est la base du philosophe.
C'est vraiment, si j'ai pas ça, vraiment, je souffre énormément. Donc j'ai plus de voiture, etc. Donc parfois, je me tape des distances à pied qui sont énormes, mais ce n'est jamais une douleur. Et j'aime l'idée du mouvement. Voilà, donc c'est le moteur de la création, de débuter quelque chose, de... Oui.
Alors j'ai parlé de ta plus belle réussite. Ton plus grand échec maintenant ?
Alors, je ne parlerai pas d'échec, mais plus de regrets. C'est tous les gamins à qui je n'ai pas pu dire au revoir, en fait. Parce que, bah voilà, après une période potentiellement d'arrêt maladie, d'absence, de congé, de formation, que sais-je, eh bien, il y a des gamins qui, parfois, ont été placés ailleurs, en centre éducatif renforcé, en centre éducatif fermé, sont en garde à vue, ont fugué longuement, ne reviennent pas au foyer, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, etc. C'est plus ça, voilà. Et ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai écrit aussi. C'était, je voulais être sûre que ce que j'avais vécu avec les jeunes que j'ai rencontrés avait bien existé. C'est pour ça que quand j'ai vu une petite phrase là en épigraphe du livre de Annie Ernaux, Le jeune homme, où elle dit qu'elle écrit « Si je ne les écris pas, les choses n'ont pas été jusqu'à leur terme, elles ont seulement été vécues, en fait. » Et ça m'a beaucoup parlé, ce côté « Si on ne consigne pas l'événement, est-ce qu'on est sûr qu'il a existé ? » Voilà. Et donc ces rencontres-là, parce que les gamins dont j'ai écrit et consigné la rencontre, là, ça y est, ils ont grandi. Certains, là, maintenant, sont majeurs, etc., sont devenus parents. Eh bien, au moins, ce qu'on a vécu il y a quelques années est écrit, consigné et là. Donc le regret, c'est plus la question du dire au revoir. Parce que finalement, la question de la rencontre, c'est la question du bonjour. Mais ça vient forcément percuter la question de comment on dit au revoir.
Ce qui me fait associer quand même à la question du deuil, hein, c'est-à-dire d'accepter la perte de la toute-puissance, en fait. Donc accepter cette part d'impuissance, de dire au revoir, de ne pas faire ce qu'on peut faire suffisamment bien, de se désillusionner d'un idéal de travailleur social parfait, d'une institution parfaite, d'une famille parfaite, d'un père, d'une mère parfaite, etc. Et donc accepter cette limite. Cette hubris, encore une fois, hein, cette castration symbolique, hein, comme disent les psychistes, et finalement avoir suffisamment d'amortisseurs de vie pour passer tous ces petits et grands deuils, comme celui de ne pas dire quoi pouvoir dire au revoir.
Oui.
Je ne sais pas si je suis clair.
Ah si, complètement. Et ça me fait grandement penser à un des chapitres du livre qui s'appelle Wanted, où je parle de la fugue, justement, et où je dis que les gamins fuguent, bon, pour plein de raisons différentes, hein, bien sûr, mais que ça a toujours un lien avec le deuil. dans tous les cas, et avec le renoncement.
C'est ça.
Et avec le ok, j'ai pas envie de vivre ce qui m'arrive à cet instant T, donc si je vais pas au foyer, bah ça n'existe pas finalement, et je vais rentrer chez papa et maman même si ça se passe pas bien, et donc j'arrive pas à faire le deuil du fait que mon parent n'est pas un parent idéal, etc. Donc effectivement, il y a toujours un lien avec le deuil.
Le deuil et le renoncement, comme tu l'as dit.
Oui.
Cette capacité de se désillusionner, pardon.
Oui.
Ouais.
Complètement. Mais la question du deuil vient forcément poser la question de qu'est-ce qu'on en fait également ensuite. Et pour le coup, moi, à titre personnel, bah voilà, avec ce père que j'ai perdu quand j'avais une vingtaine d'années, c'est posé à moi la question du deuil, de ce que j'allais en faire. Et finalement, bah moi, j'ai commencé à écrire quand mon père est mort, et j'ai gagné un prix d'écriture qui était organisé à l'époque par le Figaro étudiant, et où il fallait répondre à la question c'est quoi le bonheur. Et c'était donc un texte sur mon père, sur la perte de mon père. Mmh. Et c'est à ce moment-là, parce que j'ai gagné, que je me suis dit ok, donc maintenant ta façon de sublimer aussi ça, ce sera d'écrire. Et donc ce sera de créer quand même. Donc on voit bien que Eros n'est jamais bien loin de Thanatos, et qu'il y a toujours le deuil, oui, mais qu'est-ce qu'on fait derrière quand même. Donc ça vient réinterroger le vide et le néant, et le fait qu'on est quand même toujours un peu tenté de faire quelque chose derrière, quoi, je veux dire.
Qu'aurais-tu envie de dire à un jeune ou une jeune qui voudrait faire éduc de la PJJ ou EducSP aujourd'hui, puisque maintenant tu les vois, les jeunes qui arrivent, qui postulent, qui...
J'aurais envie de lui dire de s'interroger dans un premier temps, peut-être qu'il n'aura pas de réponse ou il aura une réponse en plusieurs temps, en plusieurs années, mais aux motivations et aux raisons profondes de son souhait de devenir éduc. Parce que c'est peut-être à la condition... Alors peut-être pas forcément réparer, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette tentation de se dire « Oh, les gens viennent réparer quelque chose ». Peut-être que parfois, et voilà, il y a des gens... Moi, j'ai un de mes potes qui est EducSP, qui a été scout plus jeune et qui a un sens du collectif qui est très fort. Je suis pas sûre qu'il vienne réparer quoi que ce soit. Je pense juste qu'il vient seulement honorer son amour de la solidarité.
Mmh.
Donc il vient pas, il vient pas réparer quelque chose, je pense. Alors qu'il y a des gens qui se situent dans ce registre de la réparation pour le coup, et qui parfois le savent pas et l'apprennent plus tard d'ailleurs. Donc peut-être essayer de répondre à cette question dans un premier temps. Ça veut pas dire que la réponse trouvée sera pas très différente ensuite. Voilà, moi peut-être que dans quelques années j'aurai encore une réponse différente. Et peut-être que c'est quand on a répondu à la question qu'on peut devenir un meilleur travers social, ou peut-être qu'on arrête d'être travers social. Mmh. Peut-être que quand on a circonscrit les raisons de quelque chose, eh ben, il y a un tournant et il y a un deuil peut-être qui se fait, ou alors une façon de mieux habiter son métier. Donc il y aurait ça.
Sachant que le deuil est un processus.
Complètement.
C'est un travail.
C'est dynamique, bien sûr. Donc il y a plusieurs niveaux de réponse. Et c'est de prendre soin de soi, de faire attention à soi, de se dégager vraiment des espaces personnels, de loisirs.
Facile à dire.
C'est facile à dire. Mais il faut s'imposer ça et être alerte à soi. Voilà. Être alerte à ses émotions, ses sensations, et ne pas penser qu'au travail. C'est très dur, je sais. Mais voilà le deuxième conseil. Prendre soin de soi.
Ok. Dernière question, Sophie. Si tu avais deux livres à nous conseiller, en plus des deux tiens, lesquels tu nous conseillerais ?
C'est gentil, merci pour la pub déjà. Alors le premier, donc c'est un livre de David Servan-Schreiber, qui était donc un médecin qui est décédé d'un glioblastome. Donc c'est une tumeur de haut grade, et c'est la même maladie qui a frappé mon père à l'époque. Et il a écrit un livre qui s'appelle On peut se dire au revoir plusieurs fois, qui est donc un témoignage sur sa maladie, sur sa disparition à venir, et ce qui m'avait vraiment beaucoup touchée à l'époque. Et c'est un livre qui est extrêmement beau, qui interroge le rapport au temps, la façon d'habiter son corps, l'espace, le temps, même quand on est malade, finalement. Et il y a un extrait que j'aimerais bien lire, si c'est possible,
avec plaisir,
que j'ai sous les yeux, qui est très court, et qui est un peu une invitation à la transcendance et au fait de conférer en fait du sens. Donc il dit à la fin: cette intuition, j'aimerais la partager avec ma femme et mes enfants. Qu'au moment où ils sentiront la caresse du vent sur leur visage, ils se diront « Tiens, c'est papa qui vient m'embrasser ». Et je lis cet extrait parce que moi, à l'époque, il m'avait bouleversé sur le côté... alors c'est un débat qui pourrait nous occuper longtemps, est-ce qu'il y a un hasard, est-ce qu'il y a un destin, est-ce que... En fait, pour moi, peu importe. Ces questions-là, je dis pas qu'elles sont nulles et non avenues, mais ce qui compte, c'est le sens qu'on donne finalement aux événements. C'est pas tant de se demander s'il devait arriver ou pas. C'est, il est là, donc comment je l'intègre à ma vie finalement. Donc le vent, si on considère que c'est papa qui vient nous embrasser, eh bien si ça peut nous aider et nous aider à tenir debout, et à pas frémir et à pas vaciller, pourquoi pas. Donc moi ça m'a beaucoup aidé en fait. De, alors on pourrait parler peut-être de synchronicité, etc. Mais quel sens on donne aux choses? Voilà. Donc ça c'est la première référence. Et une deuxième, c'est un livre de Sénèque. Qui s'appelle « De la brièveté de la vie », donc qui est un texte extrêmement court, également sur le rapport au temps, donc il faut croire que ça m'habite également et que ça m'obsède peut-être, il faudrait que j'aille en parler quelque part également, sur la valeur inestimable du temps et sur le fait qu'on se perd parfois un peu en futilité, en divertissement, hein, pourrait nous dire Pascal, plutôt que de se consacrer à ce qui devrait réellement nous occuper en tant qu'humain, et également sur le côté humilité de notre condition de mortel qu'on a trop souvent tendance à oublier. Et j'aime bien, il y a une petite phrase un peu ironique où il dit que les êtres humains s'affairent à penser à leur retraite, mais que c'est déjà d'une certaine manière un manque d'humilité parce qu'on ne sait même pas si on va un jour l'atteindre, en fait. Et bon, c'est tristement d'actualité. Et donc, si on peut essayer effectivement de vivre comme si chaque jour était le dernier, bon c'était compliqué, mais être dans l'ici et maintenant. Voilà, donc les deux livres qui ont pour point commun ce rapport au temps, ouais, et à l'humilité de notre condition de mortel, parce que dans le premier livre il y a ce rapport à la maladie et au deuil et à la mort, et dans le deuxième temps au divertissement et au loisir qui nous parasitent alors qu'on devrait s'occuper à s'affairer aux vraies choses, si j'ose dire.
Ouais, cette question du temps, c'est en filigrane de notre entretien, je trouve. Finalement.
Eh ben, je vais relire Bergson en sortant alors, certainement.
Oui, et puis ça me fait penser à une phrase, j'ai oublié son nom, mais par rapport au travail qu'on peut faire soi-même, c'est « Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse ». C'est-à-dire comment, non pas changer notre histoire, mais avoir une autre lecture de l'histoire.
Oui.
Qui nous permette d'y mettre un autre sens et de dégonfler un petit peu la colère qu'on peut avoir sur notre histoire.
Complètement. D'où la sublimation et le fait que, et c'est ce que je dis souvent aux personnes que je rencontre, hein, pas seulement dans la vie professionnelle, mais peu importe ce qui vous arrive, essayez d'en faire quelque chose et d'y donner le sens que vous voulez tant qu'il vous sert, qu'il vous accompagne.
Bah Sophie, je voudrais juste pour terminer, si on arrive à la fin de ce podcast, je voudrais dédier ce podcast à tous les professionnels que j'accompagne. Voilà, je me prends un petit temps pour moi. Ceux que j'accompagne en APP, en supervision, c'est-à-dire l'ensemble des éducs spécialisés, parce que je ne travaille pas pour la PJJ.
Pas encore, peut-être.
Ceux de l'aide sociale à l'enfance, de l'ASE, du conseil départemental de la Haute-Savoie, à qui je travaille beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir de travailler, ainsi que tous les autres travailleurs sociaux des secteurs adultes, hein, parce qu'il n'y a pas que l'enfance, évidemment, hein, du département, mais aussi les travailleurs sociaux du centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge de Haute-Savoie. Et aussi, ils ne sont pas travailleurs sociaux, mais ils sont soignants et ils travaillent dans la PMI, hein, dans la protection maternelle et infantile. Ces médecins, puéricultrices, sages-femmes et conseillères conjugales et familiales de la PMI de la Haute-Savoie, de la PMI de la Seine-et-Marne et de la PMI de la Drôme, qui aussi font un travail remarquable auprès des enfants et des familles en difficulté. Voilà, ça c'était mon petit temps pour moi. Et puis Sophie, bah, écoute, je te remercie encore une fois d'être venue depuis Roubaix, hein, c'est ça, oui. Hein. On est samedi, je le répète, hein. Donc merci à toi d'avoir sacrifié cette journée et d'être venu sur Lyon et merci pour ton hospitalité narrative, comme dirait Eric Heur.
Eh ben, merci beaucoup pour cet entretien qui était passionnant.
Je suis d'accord, je confirme. Merci Sophie.
Merci.